Les podcasts du Collège de France, biologie.
Merci d'être présente et présent à ce cours. Pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là au cours précédent, on va essayer d'avancer un petit peu sans ce concept de guerre épais aux surfaces muqueuses. Vous vous souvenez peut-être que le premier cours, j'avais essayé de faire émerger les notions de commensalisme, c'est-à-dire comment nous vivons en bonne entente avec nos micro-organismes, mais comment éventuellement certains dérapages à un moment ou à un autre peuvent survenir, et aussi bien entendu comment en opposition les pathogènes peuvent entraîner une rupture de nos grands systèmes de défense. La deuxième présentation, j'avais essayé de vous donner une espèce de mise en perspective de ce que sont les pathogènes en termes d'identité génétique et moléculaire. Donc dans cette troisième leçon, tout en restant toujours dans le modèle des bactéries pour l'instant, en tout cas, je vais essayer de vous montrer un peu les pathogènes en action, c'est-à-dire d'essayer de dégager les grands principes par lesquels les bactéries pathogènes peuvent coloniser, rompre les surfaces épithéliales et envahir éventuellement les tissus. Je vais essayer de le faire non pas en vous assommant avec des données trop nombreuses et trop diverses, mais en essayant de me focaliser sur des systèmes que je considère comme représentatifs des différents mécanismes, stratégies qui sont mis en place par les pathogènes pour procéder dans ce processus. Et puis j'ai essayé au maximum de l'illustrer par des images ou par des films, des clips vidéo, vous verrez, qui vous donnent un petit peu la dynamique des événements, mais qui en même temps vous illustrent quelque chose sur lequel j'ai déjà insisté, c'est que dans ce domaine de l'étude des mécanismes des maladies infectieuses, l'imagerie, qu'elle soit statique, comme ici la microscopie électronique, mais amenée à un niveau de résolution extrêmement important, les nouveaux microscopes électroniques à balayage ont des puissances d'émission qui sont relativement faibles et qui permettent de préserver considérablement la qualité des superstructures cellulaires sans les griller, pour parler un peu vulgairement. Vous voyez qu'on arrive à voir une bactérie, un micro-organisme qui est en plein processus de pénétration à l'intérieur d'une cellule. Vous voyez que l'ensemble des structures qui représentent finalement les remodelages, modifications de la surface cellulaire au cours de cette internalisation sont complètement préservées et qu'on peut vraiment avoir une image relativement frappante de l'événement qui est en train de se produire. Alors on peut bien sûr amplifier cette impression par des systèmes d'enregistrement en temps réel, et je vous en montrerai un certain nombre d'exemples qui permettent éventuellement non seulement de suivre un processus, mais aussi de suivre une molécule impliquée dans ce processus et voir à partir de quel moment, sur quel espace et jusqu'à quel point cette molécule va se mouvoir, s'organiser à l'intérieur d'un foyer où se passe un événement de pathogénicité. Donc le titre est « Mécanismes d'invasion des cellules et des tissus ». J'ai essayé d'élargir un tout petit peu le débat par les bactéries pathogènes. Pardon. Alors, ça, c'est une diapositive que je vous avais passée la dernière fois, simplement pour mettre un petit peu les choses en perspective, et pour essayer de vous sensibiliser finalement à ce que peut être le cahier des charges d'un pathogène. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut, quelles étapes doit suivre un pathogène pour être réellement ce qu'il est, c'est-à-dire un agent capable de causer une infection sur des cellules, sur des tissus, et induire une réponse inflammatoire qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois ou les fois dernières, représente ce qu'on appelle la maladie infectieuse. Alors, pour qu'un micro-organisme soit finalement dans une situation de succès par rapport à son approche d'une surface muqueuse en particulier, puisque plus de 80% des infections chez l'homme et chez l'animal, en fait, surviennent au niveau des surfaces muqueuses, respiratoires, digestives, urogénitales en particulier, il faut donc que ce micro-organisme soit capable de coloniser. Alors, coloniser, c'est un terme relativement large qui veut dire essentiellement que positionné à la surface d'une muqueuse, en particulier à la surface de l'épithélium qui constitue la barrière de cette muqueuse, ce micro-organisme doit être capable de survivre, de préférence de se multiplier et, si possible, d'adhérer, voire de pouvoir pénétrer à l'intérieur de cet épithélium, voire plus profondément dans les tissus, voire même à distance, partir dans le torrent sanguin ou lymphatique et se localiser en des sites qui sont parfois très à distance du foyer infectieux initial. Alors, je vous ai dit la dernière fois que certaines maladies infectieuses pouvaient se limiter à cette colonisation des surfaces muqueuses sous la réserve que le micro-organisme en question soit capable de sécréter des enzymes, des toxines qui vont causer localement des dégâts ou qui vont, par exemple, comme la toxine diphtérique ou la toxine tétanique, partir dans la circulation sanguine et aller se localiser sur leur cible, sur des organes vitaux comme le système nerveux ou le système cardiovasculaire ou respiratoire. Donc ça peut être une première étape qui, en elle-même, peut causer déjà des infections tout à fait dramatiques. Mais une deuxième étape qui fait partie, finalement, du cahier des charges d'un certain nombre de micro-organismes pathogènes, c'est la capacité, véritablement, comme je l'ai déjà dit, d'envahir les surfaces muqueuses et, à partir de ce point de départ, bien entendu, de pouvoir, éventuellement, à distance, disséminer et se relocaliser. Alors, un autre point que je n'avais pas mentionné la dernière fois, mais qui a toute sa valeur, en particulier pour un certain nombre d'infections qu'on observe, par exemple, dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier, ce qu'on appelle les infections nosocomiales, c'est-à-dire des infections qui surviennent sur des dispositifs artificiels, des cathéters, des prothèses, ou qui vont éventuellement être des processus infectieux qui se développent à partir du système vasculaire, comme par exemple les endocardites ou les vascularites. On a des situations dans lesquelles on ne se situe pas dans cette logique, je dirais, d'infection qui nécessite que le microbe colonise une muqueuse, la rompe et s'établisse à distance, mais on est dans une autre logique qui est celle de la colonisation, par exemple, d'un dispositif invasif comme un cathéter de téflon ou une prothèse. Et clairement, les processus de colonisation, bien entendu, vont être différents, puisque la nature des substrats sur lesquels le micro-organisme va se fixer pour coloniser est différente. Alors, je vous avais dit aussi que certains micro-organismes, et ça on en parlera une autre fois, peuvent avoir une véritable vie intracellulaire prolongée. Vous avez des exemples comme les chlamydia, par exemple, qui peuvent, pendant des années et des années, se développer dans des cellules, que ce soit oculaires ou de l'appareil urogénital. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, à partir de points de départ, quels qu'ils soient, on peut être en présence de micro-organismes qui vont se développer dans l'économie systémique, finalement, et aller se localiser dans des foyers à distance. C'est le cas des complications des septicémies qui vont donner lieu à des ensemencements, éventuellement, au niveau de l'endocarde, par exemple, ou au niveau des méninges, des zones qui sont finalement des zones relativement sanctuarisées et pour lesquelles, comme vous vous en doutez, il n'est pas bon du tout d'avoir un foyer infectieux qui se développe. Donc voyez un petit peu, micro-organisme par micro-organisme, encore qu'une fois, comme je vous le disais déjà, vous pouvez reprendre un certain nombre d'agents infectieux et essayer de les relocaliser dans ces différentes étapes ou possibilités. Alors, je vous avais déjà montré cette diapositive la dernière fois, mais je vous la remonte parce que je pense qu'elle est importante, peut-être encore plus importante cette fois-ci, pour essayer de comprendre comment, à partir d'un micro-organisme, peuvent se mettre en place, finalement, les éléments moléculaires qui vont faire cette différence entre ce que peut être un commensal et ce que va être un pathogène. Alors, je dis toujours aux étudiants de maîtrise ou autres que, finalement, quand vous avez un commensal, c'est un peu comme si vous achetiez une voiture sans les accessoires. C'est-à-dire, vous avez le modèle de base qui fonctionne, mais vous n'avez pas le GPS, vous n'avez pas la radio, la stéréo, et ainsi de suite. Vous pouvez considérer, finalement, le pathogène un petit peu comme ça. C'est un modèle de base sur lequel sont venus se brancher un certain nombre d'accessoires qui vont permettre à ce micro-organisme, cette fois-ci, d'adhérer à un épithélium, de sécréter une toxine, d'envahir le tissu, de se disséminer à distance. Donc tout ça, c'est, vous l'aviez vu la dernière fois, en termes de support génétique, ce sont généralement des blocs de gènes qui ont été acquis par ces micro-organismes et qui leur donnent cette nouvelle propriété d'aller une étape plus loin éventuellement que certains de leurs congénères. Mais ce qui est important, c'est que ces accessoires supplémentaires, pour continuer un peu la métaphore, ils doivent se positionner quelque part par rapport au micro-organisme. Et en règle générale, vous imaginez bien que tout ce qui va concerner l'interface ou l'interaction entre un micro-organisme pathogène et une surface muqueuse ou un tissu va concerner des mécanismes moléculaires et des structures moléculaires qui vont en fait se positionner pour l'essentiel à la surface de la bactérie elle-même, à la surface du micro-organisme. Et ce que je voudrais essayer de faire passer un peu comme message ici, c'est qu'en réalité, la structure de cette surface va considérablement conditionner à la fois la nature du processus pathogène et la façon dont justement ces effecteurs de la pathogénicité vont pouvoir se mettre en place. Alors, par exemple, les bactéries à gram négatif, on en a déjà parlé plusieurs fois, bien entendu. Ces bactéries à gram négatif, elles ont deux membranes. Elles ont une membrane cytoplasmique, classique, comme toutes les cellules vivantes, et elles ont ce qu'on appelle une membrane externe, c'est-à-dire un double feuillet lipidique, qui va délimiter avec la membrane interne ce qu'on appelle l'espace périplasmique. Et cet espace périplasmique est un espace qui n'est pas véritablement virtuel parce qu'il y a un contenu. Ce contenu, c'est essentiellement ce qu'on appelle le mur bactérien, c'est-à-dire le peptidoglycane. J'en avais déjà parlé. Ce sont des lipoprotéines qui sont des molécules qui vont accrocher ce peptidoglycane, en particulier aux membranes. Et puis, c'est un certain nombre de protéines qui sont là de façon stable, permanente, ou qui représentent en fait des protéines en transit depuis le cytoplasme, passant la membrane interne, s'établissant, se modifiant éventuellement dans le périplasme, en préparation de leur passage ultime qui va leur permettre de s'exposer à la surface du micro-organisme. Donc cet espace périplasmique, quelque part, et c'est propre encore une fois aux grammes négatifs, puisque les grammes positifs n'en ont pas, est un peu une espèce d'usine qui va permettre à la cellule, à partir d'un certain nombre de composants qui sont bien entendu synthétisés dans le cytoplasme, de mettre en place des structures de surface, et ce sont souvent des structures supramoléculaires extrêmement complexes. Alors les grammes négatifs viennent tous avec un élément de pathogénicité qui est quasiment de base, si vous voulez, dans le modèle qu'on appelle le lipopolyoside ou le lipopolysaccharide en anglais, qui consiste en un dimère de sucre qui est très très lourdement acylé par des acides gras à chaîne longue et qui va en fait essentiellement, ce sont les petits bâtons verts ici, représenter le feuillet externe, puisqu'il est très acylé, de ce feuillet lipidique de la membrane externe. Et puis, par-dessus, à la suite de ces deux sucres acylés, on va avoir ce qu'on appelle le corps, c'est-à-dire des sucres complexes à 8, 7 et 6 carbones, qui vont représenter une structure qui est extrêmement constante et stable, par exemple dans les bactéries à gram négatif. Et puis, au-delà de ça, vont se mettre en place des structures à 4 ou 5 sucres qui vont se polymériser dans des chaînes qui vont faire parfois 100, 150, 200 de ces monomères de sucre de nature différente et qui vont définir à la fois une surface qui va être chargée très négativement et qui vont aussi, de façon très pratique, par exemple, dans une espèce donnée, de fait de la diversité des sucres, permettre de caractériser, par exemple, un sérotype, puisque bien souvent, c'est à ce niveau-là que va se mettre en place la variabilité d'une souche à l'autre. Donc les grammes négatifs sont constitués de façon telle, pour simplifier un petit peu le message en termes de pathogénicité, que des structures supramoléculaires extrêmement complexes vont pouvoir se mettre en place, et au-delà du lipopolysaccharide, je reviendrai sur les structures de nature protéique, en particulier ce qu'on appelle des pili ou des fimbriés. Deuxièmement, les grammes positifs, on en avait déjà parlé encore une fois, une membrane cytoplasmique, et puis simplement le mur bactérien, c'est-à-dire une couche extrêmement épaisse de peptidoglycane qui est maintenue en fait accrochée à la membrane cytoplasmique par des molécules qu'on appelle par exemple les acides lipothécoïques qui sont ancrés dans la membrane ici, dans les lipides, et qui vont en fait s'intégrer, c'est un peu comme les bâtons d'acier dans un mur en béton, qui vont retenir, maintenir cette structure à la surface de la bactérie en lui évitant de se déliter. Et de fait, ce mur bactérien chez les grammes positifs est moins efficace et moins sophistiqué, je dirais, dans une certaine mesure, que ce système espace périplasmique membrane externe. Néanmoins, il va permettre, et je reviendrai là-dessus, d'installer un certain nombre de protéines, mais qui souvent vont se mettre en place et agir dans la pathogénicité en tant qu'elles-mêmes, c'est-à-dire individuellement. Les grammes positifs auront plus de mal pour construire à leur surface des structures supramoléculaires complexes comme des piliers et des fimbriers, on y reviendra, et ça explique en grande partie des différences de pathogénicité. Ce qui se passe souvent, et on l'a déjà dit, c'est qu'au-delà, à la périphérie d'un certain nombre de micro-organismes pathogènes, qu'ils soient grammes négatifs ou grammes positifs, on a une capsule qui est très souvent, ou le plus souvent, une capsule polyosidique, parfois constituée de sucres polymérisés extrêmement complexes, et qui va représenter, je pense que la diapositive le montre immédiatement après, un volume relativement important. Ici, c'est la façon classique de représenter ou de se représenter une capsule ou une bactérie capsulée. Ça consiste sur une suspension bactérienne à rajouter de l'encre de Chine, et donc la capsule hydratée, c'est ce que vous voyez en halo blanc autour du corps bactérien lui-même, qui est un bacille ici, c'est une klebsielle. Vous voyez que ce halo blanc repousse en fait les petits grains d'encre de Chine et vous donne une idée de ce que représente le volume de cette capsule polysaccharidique ou polyosidique autour du micro-organisme. Vous voyez que ça représente un volume qui est bien supérieur à celui de la bactérie elle-même. Donc ces bactéries encapsulées, finalement, se présentent à l'hôte pour ce qu'elles sont avec cette capsule, c'est-à-dire en gros des sucres, une charge extrêmement négative et des difficultés très importantes d'interaction, puisque, je vais y revenir tout de suite après, cette charge négative des surfaces est un élément très très important de la résistance à la phagocytose, en particulier par les polynucléaires neutrophiles. Donc, ce que je vous disais là est tout de suite illustré dans cette diapositive, en fait. De façon naturelle, si l'on considère une bactérie qui n'a pas de structure de surface particulière outre les éléments que je viens de mentionner, c'est-à-dire le polysaccharide pour le lipopolysaccharide pour les bactéries à grammes négatifs, le mur bactérien avec ses acides téchoïques pour les grammes plus et la capsule, on se retrouve avec une structure de surface qui est chargée très négativement. Et si vous regardez du côté de la cellule eucaryote qui lui fait face, une cellule épithéliale par exemple, vous savez que nos cellules ne sont pas simplement des membranes et éventuellement des protéines ou des lipides en surface, ce sont aussi des glycoprotéines et des glycolipides, c'est-à-dire des protéines sur lesquelles sont branchées des chaînes plus ou moins importantes de sucres complexes, les plus caractéristiques étant les mucines, par exemple, dans les sécrétions respiratoires ou digestives. Et donc, ces polysaccharides complexes de surface des cellules eucaryotes, au même titre que les polysaccharides complexes des surfaces microbiennes, font que c'est exactement comme si vous prenez deux aimants et vous les exposez du côté du pôle négatif, ils vont se repousser. Donc, naturellement, les bactéries et les cellules ont tendance à se repousser. Donc, pour que la pathogénicité existe, un des premiers éléments qui a dû apparaître à la surface de ces bactéries, c'est véritablement la possibilité d'émettre des éléments à la surface qui, physiquement, si possible, émergent de cette mer de sucre qui les recouvre et qui puissent aller, en fait, chercher dans la surface de la cellule eucaryote, des récepteurs sur lesquels elle puisse s'accrocher de manière, finalement, à faire un raccourci qui leur permette d'éviter ces charges négatives qui sont présentes des deux côtés. Donc, c'est, de façon peut-être un petit peu simpliste, mais c'est une réalité mécanique, c'est véritablement, probablement, ces premiers éléments-là qui ont permis au monde bactérien de devenir pathogène. C'est-à-dire quand il a acquis la possibilité, sous une forme ou sous une autre, par un système génétique ou un autre, mais codant quoi qu'il arrive pour des éléments de surface, à s'accrocher véritablement, c'est une façon de se retrouver dans un nouvel univers, et une grosse partie de l'évolution a dû ensuite s'enclencher à partir de ses propriétés initiales. Alors, si on essaye de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et j'espère que cette diapo va réussir à le faire, J'ai déjà mentionné plusieurs éléments de base dans tout ça. J'ai parlé de bactéries à gram négatif, j'ai parlé de bactéries à gram positif, j'ai parlé d'adhérence, j'ai parlé aussi d'invasion. Alors tout ça, ça peut commencer à se décliner. Et en fait, cette diapositive est un petit peu l'ossature de ma présentation d'aujourd'hui, de façon à vous déjà donner une petite idée des éléments que je vais essayer de vous développer. En matière d'adhérence, une adhérence, il y a toujours un couple. Il y a un système qui adhère du côté de la bactérie, qu'on peut appeler un ligand, ou plus spécifiquement une adhésine. Et puis du côté de la cellule eucaryote, cible, il va y avoir bien entendu une autre molécule qui a de l'affinité pour ce ligand ou cette adhésine, qu'on va appeler un récepteur. Donc on va se retrouver en permanence à réfléchir et à essayer d'identifier et de comprendre des couples, non pas simplement du côté bactérien, mais aussi du côté de la cellule. Alors quand il s'agit de bactéries à gram négatif, je vous ai déjà relativement, finalement, introduit un petit peu les termes. On va souvent parler, et je vous montrerai des exemples, de fimbriés ou de pili, de poils, en réalité, qui vont finalement donner lieu à la présentation d'une petite molécule, le plus souvent, qui va se fixer au sucre sur la surface de la cellule, donc on va appeler une lectine, et qu'on nomme généralement sous le terme d'adhésine. Alors vous verrez, et vous l'anticipez déjà, que ces pili, ces fimbriés, sont des structures macromoléculaires complexes. Le récepteur, le plus souvent dans ces systèmes, ce sont des sucres. Alors ce n'est pas l'ensemble du polysaccharide tel qu'il est, mais c'est souvent une molécule très simple, un disaccharide ou un dioside, que le récepteur, l'adhésine bactérienne va chercher soit à l'extrémité du sucre, soit éventuellement à l'intérieur de la molécule. Donc il n'y a pas nécessairement présence de ce sucre à l'extrémité de ces sucres complexes. Ils peuvent être à l'intérieur. Et ces sucres, ils vont être portés soit par des protéines, des glycoprotéines, soit par des lipides, des glycolipides. Donc ça, c'est le système général pour les grammes négatifs. Pour les grammes positifs, comme on a peu de possibilités de construire des structures complexes type fimbriés, pili, adhésine, on va se retrouver le plus souvent avec des protéines individuelles qui vont avoir une certaine affinité pour un récepteur du côté de l'hôte. Ces protéines individuelles auront généralement une affinité relativement faible, mais il y en a tellement, de l'ordre du million, de 10 millions, que l'addition finalement de toutes ces protéines en interaction avec une molécule chez l'autre va finir par permettre une adhésion relativement efficace. Et le plus souvent dans ces bactéries à gram positif, les protéines qui sont exprimées à la surface des bactéries et qui sont des éléments d'adhérence vont se lier à ce qu'on appelle des protéines de la matrice cellulaire, c'est-à-dire des protéines comme la fibronectine, comme le collagène, c'est-à-dire des éléments du tissu intermédiaire. Donc ça, c'est l'adhérence. Et encore une fois, certaines bactéries se contentent de ça parce qu'elles ont la capacité, au-delà de ce processus, de produire des toxines, des effecteurs, des enzymes qui vont tellement altérer le tissu sur lequel elles ont adhéré que ça suffira amplement à assurer leur pouvoir pathogène. Puis on a une deuxième catégorie qui est probablement, dès qu'on en parle, la notion émerge d'une étape de plus, qui est l'invasion. Alors, l'invasion, ça veut dire que certaines bactéries sont capables non seulement d'adhérer à des cellules, mais elles sont capables de rentrer dans les cellules, ce qui est déjà un élément de gravité supplémentaire. Et on y reviendra plusieurs fois. Je suis désolé de employer des termes anglais, mais ces termes sont passés dans le langage courant. On a deux manières pour les bactéries de rentrer dans les cellules. Il y a le principe du trigger. Trigger, c'est la gâchette. C'est-à-dire que la bactérie va arriver à la surface de la cellule et elle va donner lieu à un processus de gâchette, c'est-à-dire déclencher une signalisation tellement violente que le cytosquelette de la cellule va se remanier et va absorber le micro-organisme. Alors ça, on y reviendra. C'est un modèle que partagent un certain nombre de bactéries comme les salmonelles, les shigella, les yersinia. Elles ont la capacité, par un appareil de sécrétion que je vous ai déjà introduit, d'injecter des effecteurs moléculaires qui vont entraîner ces modifications massives du cytosquelette cellulaire et permettre à la bactérie d'être internalisée. Mais on a un autre modèle qui s'appelle le modèle du zipper, c'est le modèle de la fermeture éclair, c'est-à-dire que certaines bactéries vont produire à leur surface une molécule qui, par exemple, dans le cas de Yersinia, va être appelée une invasine, ou dans le cas de gramme positif qui est l'hystéria monocytogénèse va s'appeler internaline A, on reviendra là-dessus, qui sont susceptibles de se fixer sur une molécule de la surface cellulaire, mais une molécule de la surface cellulaire qui a un rôle dans la dynamique de la cellule, c'est-à-dire qui a un rôle dans la mobilité cellulaire, un rôle dans l'adhérence cellulaire, et qui est donc en prise directe, par des processus sur lesquels on reviendra rapidement, avec le cytosquelette cellulaire, et donc donne la capacité à la fois d'adhérer et en même temps de mobiliser la surface de la cellule de manière à ce que la bactérie soit progressivement internalisée, comme si vous fermiez autour d'elle une fermeture éclair. Je vous montrerai quelques exemples, ce sera peut-être plus clair que la façon dont j'essaye de vous l'expliquer ici. Donc vous voyez quand même d'emblée la notion d'adhérence, la notion d'invasion, la notion d'invasion elle-même des mécanismes moléculaires qui peuvent être conceptuellement très différents, et d'emblée des systèmes moléculaires qui diffèrent entre les grammes moins et les grammes plus, et c'est autour de ça que j'ai articulé ma présentation. Alors je vous avais dit que j'essaierais de l'illustrer au maximum de manière à ne pas vous assommer avec trop de données, mais plus vous donner des règles générales et avoir un peu le pouvoir des images. Ça, c'est la surface de bactéries dont on a déjà parlé, parce que c'est un des pathovars importants du monde, Escherichia coli, qu'on appelle Escherichia coli entérotoxinogène. Ce sont des colibacilles qui sont extrêmement prévalents dans les pays en voie de développement. C'est probablement, avec les rotavirus, la première cause de diarrhée chez les très jeunes enfants dans les pays pauvres. Et ce que font ces colibacilles entérotoxinogènes, c'est deux choses. C'est un, d'adhérer aux cellules, et deux, de produire une ou plusieurs toxines qui vont, comme le choléra, en fait, donner lieu à cette diarrhée hydroélectrolytique dont on a déjà parlé. Mais là, je voulais simplement illustrer le fait suivant. Si vous regardez attentivement la surface de ce micro-organisme, vous avez un ombrage négatif. Donc ça, ici, en noir, c'est le corps bactérien. Et là, c'est, bien entendu, l'espace extérieur. Vous voyez que partent de la surface de cette bactérie des prolongements comme des baguettes très rigides. C'est ça qu'on appelle des pili ou des fimbriés. Et ça représente des structures qui sont relativement larges en diamètre. Si vous les coupez, ça fait de l'ordre de 5 à 7 nanomètres. Et en longueur, ça fait de l'ordre de plusieurs centaines de nanomètres, voire éventuellement presque parfois 1 micron. Mais si vous regardez encore plus attentivement, vous voyez qu'elle est très riche, cette surface. Il y a d'autres structures. Il y a ces structures qu'on voit un petit peu moins bien, qui sont beaucoup plus ourlées, manifestement plus touffues. Et ça, on les appelle des fibrilles. Et leur diamètre, en fait, est beaucoup plus petit. Il est de l'ordre de 2 nanomètres. Et puis, vous pouvez continuer à regarder très fort, mais vous ne le verrez pas. Parfois, il n'y a pas de structure vraiment. Les bactéries vont adhérer grâce à des espèces de capsules protéiques qui n'ont pas véritablement de structure, dont vous pouvez donner une vraie définition l'examen de cette microscopie électronique. Donc ça illustre aussi que les bactéries, en fait, n'ont pas un système unique généralement d'interaction avec les surfaces des cellules eucaryotes. Elles peuvent associer plusieurs systèmes et les intégrer finalement en fonction des nécessités de type de tissu qu'elle rencontre. Alors, qu'est-ce qui explique la différence de structure? Car en général, les protéines qui constituent ces fimbriés sont des monomères, c'est des protéines qui se polymérisent, et qui vont finir par donner cette structure. Elles se ressemblent assez les unes par rapport aux autres. Malgré tout, elles donnent des structures différentes. Mais la raison est la suivante, c'est qu'en fait, c'est tout simplement un problème de tour d'hélice. C'est-à-dire que certaines de ces molécules vont, vous voyez, on peut compter 3 à 4 monomères qui vont constituer un tour, et puis on continue, on passe un deuxième tour, et ainsi de suite. Et on peut envisager à partir de là qu'on ait une structure relativement rigide, si elles sont les fimbriées ou pili. D'autres vont avoir un tour d'hélice beaucoup plus rapide, de l'ordre d'une molécule et demie, on a un tour d'hélice, et ainsi de suite. Et on va faire avec ça des fibrilles. Et puis d'autres sont simplement, pas un empilement véritablement, mais plus, il n'y a pas de tour d'hélice véritablement, les molécules s'associent aux unes aux autres, et tout ça, bien entendu, ne va pas prendre de structure, va s'effondrer, et ça va donner ces systèmes d'adhésine non fibrillaires qui sont caractéristiques d'un certain nombre de souches, en particulier de colibacilles responsables d'infections urinaires. Alors en fait, ces structures que je vous ai montrées sur la diapositive précédente ne sont pas vraiment la structure d'adhésion au sens propre. En fait, ce sont des systèmes de présentation. Les molécules qui assurent véritablement l'adhésion, qu'on appelle, je vous l'ai déjà dit, des adhésines, sont des molécules qui sont le plus souvent des lectines, c'est-à-dire des protéines qui sont susceptibles de se fixer à des sucres, puisque je vous ai dit que les récepteurs étaient le plus souvent dans ce cas-là des sucres. Et elles peuvent se situer soit à l'extrémité, comme ici, soit en fait à l'extrémité et tout au long du pilus ou du fimbrié. À tous les cas de figure possibles, c'est absolument impossible de le systématiser, le résultat étant néanmoins une capacité d'aller présenter probablement de façon assez efficace et profonde à l'intérieur de ce que peut représenter la surface d'une cellule eucaryote, d'aller chercher véritablement le récepteur là où il est. Donc ces Escherichia coli entérotoxinogènes, vous les voyez ici en position, ça ce sont les pilies, les fimbriés dont on a déjà parlé, vous voyez qu'ils vont s'associer très directement avec les microvillosités, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bordure en brosse, à la surface des entérocytes, et l'association se fait avec des motifs de disaccharides qui sont localisés sur des sucres complexes, comme je vous l'ai déjà dit, soit éléments de glycoprotéines, soit éléments de glycolipides de la surface. Donc ça, ce sont vraiment les systèmes d'adhésion classiques qu'on retrouve chez les bactéries à gram négatif. Alors, je voulais vous mettre ça en perspective avec un modèle qui est un modèle qui commence à être vraiment bien connu à l'heure actuelle, qui est le modèle des infections urinaires. Alors, les infections urinaires à Escherichia coli, il y en a de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle les pyélonéphrites, c'est-à-dire que ce sont des infections aiguës des cavités rénales, au niveau des calices et du bassinet, voire éventuellement des infections qui progressent à l'intérieur du parenchyme rénal. Puis on a une deuxième catégorie d'infections qui sont ce qu'on appelle des bactériuries asymptomatiques. Ce sont des personnes qui, très régulièrement, ont des micro-organismes émis dans l'urine sans avoir de signes d'infection hôte. Cette présence, généralement on considère au-delà de 10 puissance 5, c'est-à-dire au-delà de 100 000 bactéries par millilitre d'urine, cette présence de micro-organismes peut soit être totalement silencieuse, ce qui pose d'ailleurs des problèmes thérapeutiques parce que ce sont des patients, on ne sait jamais si on les traite ou si on ne les traite pas, et de temps en temps peuvent donner lieu véritablement à une cystite, c'est-à-dire signe d'inflammation, des douleurs vésicales, des impressions d'envie d'uriner permanente. Donc, on a vraiment deux situations. On a une situation qu'on peut considérer comme grave, qui est celle de la pyélonéphrite, c'est-à-dire vraiment l'infection du rein. Et puis, on a une situation qui est plus une situation de portage, parfois relativement chronique, qu'on pourrait même presque considérer, même si on, a priori le tissu, la surface de l'arbre urinaire doit être stérile, un peu comme des commensaux, si vous voulez, de la vessie. Alors ça, ces Escherichia coli, ils sont responsables de 80% à peu près des pyélonéphrites dans les situations d'absence d'obstacles, par exemple, soit de malformations, soit de lithiase, de tumeurs ou autre. C'est une des premières causes d'ailleurs d'infection en France, en particulier en milieu hospitalier. Alors, ça a été un très très beau modèle, je dirais. Tout est relatif, bien sûr, mais c'est intéressant parce qu'on voit dans un système qui est complexe mais homogène, c'est-à-dire les reins, les calices, les bassinets, les uretères, la vessie, on a un système qui est global et intégré, et malgré tout, on a des micro-organismes qui peuvent donner une infection de l'arbre là-haut, et parfois des micro-organismes qui sont en portage ici, mais qui ne seront jamais capables de donner d'infection haute et d'infection grave. Donc on pense d'emblée qu'il peut y avoir probablement des différences dans les éléments qui vont constituer la pathogénicité de ces micro-organismes. Alors bien entendu, on a parlé le dernier cours de l'identité des pathogènes. Un Escherichia coli responsable d'infections urinaires, C'est encore une fois un Escherichia coli de base, comme on a pu le définir en tant que commensal, sur lequel sont venus s'ajouter dans le génome un certain nombre d'îlots de pathogénicité, de bactériophages, d'éléments génétiques qui lui procurent finalement, en plus de ses congénères, toute une série de propriétés qui vont lui permettre, pour ses fimbriés par exemple, d'adhérer à la surface de l'épithélium urinaire, qui vont lui permettre, avec des protéases, de dégrader un certain nombre d'éléments de défense. L'antigène O, ce sont les chaînes latérales du lipopolysaccharide qui vont le protéger contre les molécules de défense, les peptides antimicrobiens, éventuellement le complément. On va avoir des systèmes de captation du fer. Vous savez qu'à la surface des muqueuses, le fer ferrique, qui est très important pour la croissance des bactéries, est gardé par des molécules qu'on appelle la lactoférine. Il faut donc que la bactérie rentre en compétition avec ces molécules pour acquérir du fer ferrique et pouvoir le faire rentrer dans son économie, puisqu'elle en a besoin en particulier pour respirer. Donc tous ces systèmes sont extrêmement importants, sans parler des hémolysines, qui sont, comme on les avait déjà définies, des molécules, des toxines qui font des trous dans les membranes et qui donc, par définition, vont altérer les cellules et les tissus de l'hôte. Donc tout ça est une espèce de somme d'éléments de pathogénicité qui font que la bactérie est capable, à un certain stade, de passer un seuil et d'être véritablement pathogène. Si on élimine, par exemple, les chaînes latérales, elle perd sa pathogénicité. Si on élimine ces fimbriés ou pili de type PAP, je vais y revenir tout de suite, elle perd sa pathogénicité. Donc il faut, en fait, le tout pour être pathogène. Et la perte d'un élément majeur va éliminer la pathogénicité, même si les autres éléments sont toujours exprimés. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça, en fait, que se construit cette identité des pathogènes. Alors, je voudrais juste vous montrer un exemple, parce que ça a été vraiment, historiquement, et ça continue, le travail continue à se développer sur ces systèmes, les pili de type PAP, PAP, car ils sont vraiment la base de la pathogénicité de ces colibacilles, qui sont capables de coloniser et d'infecter le haut appareil urinaire, c'est-à-dire de donner des pyélonéphrites. Alors c'est un très joli exemple d'un système intégré, finalement, de pathogénicité. Je vous ai parlé la dernière fois d'îlots de pathogénicité. Les îlots de pathogénicité caractéristiques de ces colibacilles responsables d'infections urinaires comportent, entre autres, bien souvent, un opéron qui code pour un appareil d'adhérence de type PAP, comme c'est défini ici. Alors, vous voyez que ça donne lieu à la surface de l'épithélium urinaire à une colonisation massive. Tout ça, ça représente une micro-colonie de plusieurs milliers de bactéries qui sont en train d'adhérer à la surface de l'épithélium urinaire. Et vous voyez, avec une résolution bien supérieure à ce que je vous ai montré antérieurement, à quoi ressemble un pili ou un fimbrié de type PAP chez un Escherichia coli uropathogène. Vous voyez que ça n'est pas finalement que ce poil dont on a parlé déjà, ça l'est jusqu'à un certain point. Et puis au-delà de ce poil, on a, pili ou fimbrié, on a ce qu'on appelle une adhésine fibrillaire qui est beaucoup plus souple. Et puis tout au bout, on a cette fameuse molécule dont on a déjà parlé qui est l'adhésine. Donc vous voyez, c'est une espèce de système quasiment télescopique qui permet d'aller présenter cette adhésine le plus loin possible de façon à maximiser ses chances de pouvoir retrouver son récepteur au niveau de la cellule eucaryote. Alors dans cet opéron de type PAP, l'adhésine qui s'appelle ici PAP-G reconnaît un digalactoside, qui est un galactose alpha-1,4-galactose, qui est extrêmement fréquent, en particulier au niveau de l'épithélium urinaire, ce qui représente sans doute une partie de la spécificité de ce micro-organisme lorsqu'il a la capacité d'exprimer cet appareil de sécrétion. Et donc, cette adhésine, localisée ici à l'extrémité, va se lier à ce galactose alpha-1,4-galactose et permettre cette première étape d'adhésion qui va préparer la colonisation grâce aux autres facteurs mentionnés, la captation du fer et ainsi de suite. Mais la mise en place de cet appareil d'adhésion, de ce pilus, a été au fil des années très bien, je dirais, disséquée par un chercheur suédois de l'Institut Karolinska à Stockholm qui s'appelle Staffan Normark et son équipe. Et ils ont vraiment montré, étape par étape, et gène et produit de gène par produit de gène, ce qu'était la fonction des éléments codés par cet opéron. Alors, si on regarde un petit peu les choses, on a ici un gène qu'on appelle PAPA, et ce gène qui s'appelle PAPA va être bien entendu exprimé, la protéine PAPA va passer dans le périplasme, elle va être prise en compte comme plusieurs autres qui vont assurer la formation du pilus à l'arrivée par une molécule qui s'appelle PAPD, qui est en fait un chaperon périplasmique qui est produite par un autre gène sur ce même opéron. Donc ce chaperon périplasmique va les faire transiter à travers l'espace périplasmique et elles vont aller se localiser à un endroit donné grâce à une protéine qui est le produit du gène PAPC qu'on appelle le Usher en anglais. Le Usher, dans les restaurants aux États-Unis, c'est la personne qui vous prend à l'entrée du restaurant puis qui vous emmène à la table où vous devez vous asseoir. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Et bien là, c'est la même chose. Ce système va être mené à un endroit donné de la membrane. Et c'est là que va se décider la nucléation de ce pilus qui va permettre ensuite l'adhérence. Alors vient ensuite s'enclencher un système qui est avec un cofacteur, un élément qui s'appelle PAPH, qui va être la molécule d'ancrage initiale. Et puis à partir de ça, va se polymériser via la sous-unité principale PAPA, le pilus. Et puis on aura aussi les éléments du fibril, ici, qui sont PAPE, PAPF, et puis, final, un peu la cerise sur le gâteau, si on peut dire, l'adhésine PAPG, qui est finalement l'élément effecteur de l'adhésion. Donc vous voyez, c'est un système complexe, c'est un système intégré, qui nécessite plusieurs étapes, le passage de la membrane interne, la survie dans le périplasme, le translocation, passage, ancrage à la membrane externe, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des éléments intégrés, extrêmement complexes, pour aboutir à la présence de centaines et centaines de ces organelles à la surface de la bactérie qui vont permettre cette adhésion. Donc ça, c'est vraiment le modèle par excellence. Alors, encore une fois, les souches de pyélonéphrite aiguë, c'est-à-dire celles qui donnent vraiment des maladies graves, elles ont tout ça, et en particulier PAPA. Par contre, si on commence à s'intéresser à ces souches dont je vous ai déjà parlé, qui sont les souches d'infection urinaire basse, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire des souches qui colonisent de façon régulière la vessie sans nécessairement donner d'éléments de pathogénicité, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas nécessairement de douleur ou de symptômes, on s'aperçoit lorsqu'on fait finalement l'analyse des facteurs de pathogénicité, et ça c'est un très joli travail de Ulrich Dobrindt à Würzburg récemment, avec ce qu'ils ont fait, en fait, c'est de mettre en place des systèmes de puces à ADN, de microarrays, qui permettent de faire une véritable carte d'identité de chacune des bactéries et de voir celles qui ont ou quels sont les facteurs de pathogénicité présents ou non présents, en tout cas les gènes codant pour des facteurs de pathogénicité présents ou non présents. Et on arrive peu à peu, en utilisant ces outils et éventuellement d'autres, à définir finalement l'équipement d'une souche, ce qu'elle a et ce qui éventuellement lui manque. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des souches qui sont finalement isolées de ces infections vésicales chroniques, il leur manque toujours quelque chose, en fait. Elles n'ont pas l'ensemble de la panoplie qu'ont les Escherichia coli uropathogènes, soit parce que les gènes ne sont pas là, soit parce que les gènes ont été détruits, mutagénisés. Je vous avais parlé la dernière fois de mutations, de séquences d'insertion. Vous voyez cette souche, par exemple, elle a un LPS rough, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les chaînes latérales, donc elle est hypersensible aux compléments, aux facteurs antimicrobiens. Elle a par contre l'hémolysine, elle a FIMB, qui est un autre système d'adhésion, mais elle a une mutation ponctuelle dans PAPG, c'est-à-dire dans l'adhésine, ce qui fait que l'adhésine est non fonctionnelle. Et puis si on en prend une autre, son LPS est rough, vous voyez que c'est souvent le cas. Il y a une mutation ponctuelle dans l'hémolysine, donc il n'y a pas d'hémolysine. Il y a une mutation ponctuelle dans PAPG. Vous voyez, finalement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, si l'on peut dire, mais à l'arrivée, ces souches sont incapables de donner lieu à une pyélonéphrite aiguë. Et en fait, probablement, ça revient un peu à ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'on est là sur des clichés, des instantanés d'une situation qui est une situation de perpétuelle évolution entre le monde des commensaux stricto sensu, le monde des pathogènes, c'est-à-dire des bactéries qui se sont adaptées totalement et qui donnent une vraie maladie infectieuse parce qu'elles ont acquis l'ensemble de la panoplie des gènes de virulence nécessaires par des bactériophages, par des plasmides, par des îlots de pathogénicité. Et puis cette notion qu'on avait développée la dernière fois de dégradation génomique, de mutation, de disparition de séquences, qui fait que ces bactéries, finalement, perdent un certain nombre de leurs éléments, sont encore capables de faire quelque chose, c'est-à-dire de survivre dans une vessie, mais sont devenues totalement incapables de remonter le long de l'urètre et d'aller causer une infection au sein des cavités piélocalycielles, voire dans le parenchyme rénal lui-même. Donc vous voyez qu'on est en permanence maintenant dans ce monde microbien à comparer les pathogènes à des, pas nécessairement non pathogènes, mais disons à des moins pathogènes, et qu'on commence à avoir une idée relativement claire de la façon dont évoluent les choses. Et il y a clairement des intermédiaires, et finalement, quand on y réfléchit un peu, ce n'est pas très étonnant. Alors simplement pour vous dire quand même, et l'image est belle, ça vient du groupe de Skolt-Hulgren à Saint-Louis, Washington University, c'est que certaines de ces souches qui restent de façon chronique dans la vessie, même si elles ne causent pas, encore une fois, de symptômes tout à fait mesurables, ont néanmoins la capacité... Les cellules vésicales sont très particulières parce qu'elles ont une durée de vie très longue. Une cellule de vessie, une cellule de l'intestin, ça dure 2 jours, une cellule de vessie, ça dure 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, notre épithélium vésical, curieusement, on ne sait pas très bien pourquoi, est un épithélium extrêmement stable. Ce qui permet en fait à certaines de ces bactéries, vous voyez ici le colibacille en coupe, vous voyez ici les pilies, en fait c'est ce qu'on appelle des pilies de type 1, et vous avez déjà l'image que de temps à autre, finalement, la frontière entre l'adhésion et l'invasion, elle est finalement relativement ténue, parce que cette bactérie, manifestement, comme on le voit ici en balayage, elle est en train de rentrer dans la cellule. Et il n'est pas impossible que certains de ces souches responsable d'infections urinaires du bas appareil, chroniques, asymptomatiques, en fait persistent parce qu'elles sont capables de se cacher à l'intérieur de cellules épithéliales. Et comme la durée de vie de ces cellules épithéliales est très longue, finalement, elles peuvent rester là pendant pas mal de temps, être éventuellement rééliminées à l'extérieur et entretenir en fait ce processus d'infection chronique. Donc vous avez là, encore une fois, pas pour essayer de rendre les choses plus complexes, mais sans doute de les relativiser en disant que la frontière entre pathogénicité et commensalisme n'est pas toujours aussi claire que ça, et les analyses, disons, moléculaires des processus infectieux nous le montrent de plus en plus. Alors, ça, c'était un peu l'introduction, si je puis dire, concernant les bactéries à grammes négatifs, pour donner un petit peu une idée des grands systèmes d'adhésion, en tout cas. Pour ce qui concerne les bactéries à gram positif, alors quand je parle de bactéries à gram positif adhésives, je parle essentiellement de streptocoques et de staphylocoques, qui sont vraiment les deux grands, les plus importants, à la fois en termes de pertinence sur le plan des infections et en termes de connaissances sur le plan de la recherche fondamentale. Alors, ça, c'est une vision un petit peu naïve des choses, mais tout de même, elle a sa réalité. Je viens de vous le dire, les bactéries à gram négatif ont la capacité de construire des structures supramoléculaires, vous avez vu, ces pilies, ces systèmes d'adhésine, et donc de venir coloniser la surface de l'épithélium de façon extrêmement efficace. Les grammes positifs, en règle générale, ne savent pas faire ça correctement. Et donc, sont obligés de se servir de stratagèmes. Alors, cette photo est très jolie, c'est une microscopie à balayage de la surface d'un cathéter qui a été colonisé, je dirais malheureusement, par un staphylocoque. Et vous voyez l'ensemble des bactéries qui, en fait, sont associées à cette surface de téflon, de ce cathéter, et qui vont en fait s'organiser dans ce qu'on appelle un biofilm, qui vont s'enduire de polysaccharides, qui vont assurer encore plus l'association de ce biofilm à ce substrat, et qui vont finir par faire des structures qui ressemblent un petit peu à des champignons, en réalité. C'est la caractéristique de ces biofilms. Alors tout ça, c'est une longue digression pour dire que, en règle générale, les grammes positifs, je les ai faits ici en bleu, ont du mal à s'associer à des récepteurs de la surface cellulaire elle-même, c'est-à-dire des molécules intrinsèques de la surface cellulaire. Et le plus souvent, ces bactéries s'associent un peu en système de sandwich grâce à un intermédiaire protéique. Et cet intermédiaire protéique, c'est dans l'immense majorité des cas des protéines de la matrice cellulaire qui sont présentes à la surface des cellules, qui sont bien sûr présentes au niveau de la membrane basale des cellules. Et donc ces protéines, la fibronectine, la laminine, le fibrinogène, le collagène, je dis le, mais en fait ce sont des familles de protéines, vont servir d'intermédiaire pour l'association. Alors là, je voulais vous montrer de façon un petit peu naïve, vous avez la surface de la cellule, ça représenterait plutôt une cellule endothéliale dans un vaisseau. Staphylocoque, vous savez, adore aller coloniser les vaisseaux. La petite couche en gris de fibronectine, ou en fait de protéines de la matrice cellulaire, et puis la bactérie qui peu à peu interagit avec ce système et va coloniser. Là, ça représente un cathéter. Ça représente un corps étranger qu'on a introduit dans l'organisme. En fait, lorsque vous introduisez un cathéter dans une veine, dans les secondes, les minutes, disons, qui suivent l'introduction, ce cathéter, en fait, va être recouvert, et très rapidement, ça va se construire, d'une gangue qui est formée essentiellement de ces protéines matricielles. En fait, elles circulent, il y a des formes qui sont solubles et qui sont présentes dans le sérum et qui circulent en permanence. Donc, ces éléments étrangers qu'on va introduire dans l'organisme vont représenter très très rapidement des pièges pour l'association, en fait, de ce type de bactéries à gram positif, comme des streptocoques ou des staphylocoques, par exemple, d'où la nécessité de mesures extrêmement strictes d'asepsie lorsqu'on implante ce type de dispositif chez des patients. Parce que quand on implante ça, on sait d'emblée qu'on prend le risque d'avoir très rapidement, sous 48 heures, une infection si on n'a pas fait attention. Et puis le dernier élément important, parce que peut-être ça peut vous expliquer un certain nombre de choses, en particulier toute la problématique des endocardites, vous savez que les infections intracardiaques, en particulier les infections des valves cardiaques, surviennent très souvent sur des zones de l'endocarde qui ont été des zones déjà meurtries par une maladie préalable. Soit parce que le patient, ça existe de moins en moins, mais ça existe encore, a fait un rhumatisme articulaire aigu avec une destruction des cellules de l'endocarde, soit parce que l'athérosclérose, des lésions de l'endocarde peuvent s'installer. Et en fait, on se retrouve avec des zones où les cellules ont disparu et sont remplacées par une espèce de tissu fibreux qui est constitué essentiellement de ce type de protéines et qui va représenter un point d'accrochage, un point d'adhérence extrêmement efficace pour ce type de bactéries. C'est ce qui explique que les endocardites, ce qu'on appelle l'endocardite d'Hössler, par exemple, survient très souvent sur des valves qui ont d'ores et déjà été altérées par une maladie préalable. Donc vous voyez, on est vraiment dans un contexte là qui est assez différent de ce que j'ai essayé de vous développer antérieurement sur les bactéries à gram négatif. Alors, si on prend comme micro-organisme modèle le streptocoque, on se retrouve toujours avec cette dualité, la nécessité d'avoir un système d'adhésion du côté de la bactérie, adhérence, adhésion, et la nécessité d'avoir un système récepteur au niveau de l'organisme. Alors, quand vous regardez un streptocoque, ça c'est Streptococcus pyogenes, c'est ce qu'on appelle vulgairement les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, vous savez qu'ils sont très hémolytiques sur boîte de gélose au sang. Ce sont les streptocoques qui vont causer l'angine, ce sont les streptocoques qui vont causer éventuellement des lésions cutanées, l'impétigo, mais qui peuvent causer, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, ces espèces de pathologies cutanées absolument dramatiques qu'on appelle des fasciites à streptocoques, c'est-à-dire une espèce de dissection du tissu sous-cutané par la progression du micro-organisme. Donc c'est un microbe qui peut donner à la fois des symptomatologies relativement bénignes comme une angine, encore qu'on puisse avoir des complications comme le rhumatisme articulaire aigu si elles ne sont pas soignées correctement. Et puis, de temps à autre, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas toujours connues, peut donner lieu à des infections tout à fait dramatiques. Donc vous voyez ici que ce microbe qui est en train d'interagir avec la surface de l'épithélium des voies aériennes supérieures, de la gorge, il y a des choses là, en surface. Il y a des espèces de structures fibrillaires dont on voit qu'elles arrangent manifestement un pont avec la surface cellulaire, alors même que cette bactérie ne produit pas du tout ces pili, ces fimbriés, ces structures extrêmement florides qu'on a vues à la surface des bacilles ou des bactéries à gram négatif. Donc, Le récepteur, je n'y reviens pas trop, dans ce cas-là, c'est la fibronectine. C'est un gros dimère de 200 kilodalton avec plusieurs modules. Mais c'est en fait ce module N-terminal, c'est une espèce de piège à énormément de ligands, que ce soit la fibrine, que ce soit l'héparine, facteur 13, ou éventuellement les bactéries. C'est-à-dire que le système d'adhésion de streptocoque va s'effectuer sur ce module N-terminal de la fibronectine. Et puis du côté de la bactérie, on a des familles de protéines. Il y a une diversité absolument extraordinaire, même dans le streptocoque pyogenes lui-même, qui sont des protéines qui n'ont pas d'homologie de séquence, à très peu de différences près, mais qui ont une structure globalement assez similaire. Ce sont bien sûr des protéines sécrétées, donc elles ont ce qu'on appelle un peptide signal du côté N-terminal. Et puis si on va du côté C-terminal et qu'on revient dans ce sens-là, on a un domaine C-terminal tout à fait donc terminal qui correspond à un domaine cytoplasmique. On a un domaine qui est un domaine hydrophobe transmembranaire. Il faut passer à travers la membrane cytoplasmique de la bactérie, à gramme plus, hein, je vous rappelle, il y a donc une seule membrane. On a un domaine dit W, ça veut dire wall, ça veut dire que ce domaine est le domaine qui traverse le peptidoglycane, cette espèce de couche de mur bactérien à la surface. Et puis ensuite, on a des boîtes qui se répètent avec des séquences qui varient d'une protéine à l'autre, mais qui sont en fait des séquences répétées à l'intérieur d'une même protéine, plusieurs fois, et de nature différente éventuellement. Et en fait, ces boîtes, telles qu'elles ont été analysées en règle générale dans ce type de molécules, représentent les domaines qui vont permettre l'association ici à la fibronectine. Alors, je disais que ces protéines avaient une structure qui était similaire, mais pas d'homologie de séquence. C'est vrai, sauf pour une petite signature ici, et je vais y revenir, qui s'appelle LPX, l'acide aminé varie, TGX. Donc le leucine, proline, threonine, glycine, et puis éventuellement une variation qui est illustrée par X. Et ça, on le retrouve quasiment systématiquement sur ces protéines, et c'est en fait la signature du mode d'action ou du site d'action d'une enzyme de la paroi des grammes positifs qui s'appelle une sortase, il y en a plusieurs d'ailleurs, et cette sortase va cliver cette protéine ici au niveau de ce motif LTX-TGX et elle va l'associer de façon covalente au peptidoglycane de façon à l'ancrer dans le mur bactérien et à lui permettre de se stabiliser et d'aller interagir avec sa cible protéique. Alors en fait, si vous commencez à réfléchir à ce qu'est la surface d'un streptocoque bêta-hémolytique, comme on l'a mentionné ici, mais c'est la même chose pour un staphylocoque, c'est une mosaïque de ce type de protéines qui vont interagir avec en fait énormément de récepteurs potentiels chez l'hôte. Vous avez des protéines de liaison au fibrinogène, vous avez des protéines de liaison à la fibronectine, à l'albumine, la question étant de savoir qu'est-ce qui ne se lie pas à l'albumine, au plasminogène, au collagène, au complément et à la laminine. Vous voyez toute une gamme, une diversité, c'est vraiment une mosaïque de protéines de surface. Et comme je vous l'ai déjà dit, la liaison se fait de la façon suivante, en réalité. Ça, c'est la structure du peptidoglycane, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez cette structure de N-acétylglucosamine, N-acétylmuramique, N-acétylglucosamine, N-acétylmuramique. Donc ça, c'est un fil de polyoside stable. Et c'est, en fait, polymères de sucre sont reliés les uns aux autres par des ponts peptidiques, à la fois... C'est un lacis, en fait, en trois dimensions, à la fois d'un pont à l'autre par ce pont peptidique donc, qui est constitué d'un L-alanine, un acide glutamique, une lysine, L, et soit une lysine, soit un acide diaminopimélique chez les grammes moins, et puis une alanine. Et puis il y a un deuxième élément du lacis qui relie ces peptides entre eux et qui est constitué par, en règle générale, 5 glycines. Donc vous voyez que tout ça est armé, et c'est ça qui est retenu par les acides dipothécoïques. Donc toutes ces protéines qui vont interagir avec le monde extérieur à la surface de ces grammes positifs, une fois passées la membrane externe, en fait, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un domaine cytoplasmique, d'un domaine transmembranaire, hydrophobe, de la signature LPX-TGX, Donc la sortase va venir se fixer sur ce domaine LPX, T, GX, va cliver ici entre le T et le G, et va lier de façon covalente la protéine maintenant par ce motif LPXT à une des glycines de ce pont entre le peptidoglycane. Donc on va vraiment avoir un système qui est à la fois simple finalement parce que ça correspond à une seule protéine, ce n'est pas un système macromoléculaire complexe comme les appareils d'adhésion que je vous ai montrés pour les Gram-1, mais un système néanmoins très sophistiqué dans lequel la bactérie est capable de lier covalentement une protéine de surface à son mur bactérien, à son peptidoglycane, de façon à ce que la partie N-terminale ici et les éléments de boîte répétitive que je vous ai mentionnés puissent aller interagir avec le récepteur, la fibronectine, encore une fois les protéines de la liste que je vous avais montrée dans la diapositive précédente. Donc ça, c'est vraiment le système de base des grammes positifs pathogènes pour interagir avec leur environnement cellulaire et tissulaire. Et vous pouvez prendre maintenant un streptocoque, par exemple, et décliner un certain nombre de protéines. Vous reconnaissez là ce qu'on appelle fibronectin binding protein, liaison à la fibronectine. Tous ces systèmes-là correspondent à des protéines dont la fixation est médiée par des sortases et qui vont établir, comme je le disais, cette mosaïque de systèmes d'adhésion potentiels à des récepteurs cellulaires. Alors, c'est là que les choses deviennent un petit peu compliquées avec le streptocoque et ça me permet de revenir sur cette notion, finalement, qui avait un peu développé dans mon premier cours de yin et de yang, c'est-à-dire que les bactéries, elles font mais elles ne font pas, elles veulent mais elles ne veulent pas. Alors, le problème du streptocoque, c'est qu'il veut, si on veut essayer de simplifier un petit peu les choses, on reproche toujours de penser comme les bactéries, mais je prends ça comme un compliment. Le streptocoque, ce qu'il veut, c'est adhérer, c'est s'accrocher quelque part. Ça, c'est évident, sinon il part dans la circulation et finit par être détruit. Donc il faut qu'il s'accroche quelque part. Donc pour s'accrocher quelque part, il faut qu'il ait ces systèmes d'adhérence de surface qui lui permettent de retrouver un récepteur et de se faire héberger sur une surface, et je vous ai montré des exemples, surface cellulaire, des cathéters, des lésions valvulaires au niveau cardiaque. Mais en même temps, ce qu'il ne veut pas, le streptocoque, c'est être phagocyté par des polynucléaires neutrophiles, parce que sinon, c'est la fin, bien entendu. Et c'est assez intéressant parce qu'on lit, finalement, dans ces structures de surface, cette nécessité, à la fois ce paradoxe, d'à la fois de devoir adhérer et en même temps de devoir éviter d'être phagocyté. Si on prend par exemple le système qui est le mieux connu d'adhésion des streptocoques, c'est ce qu'on appelle la protéine M. La protéine M, c'est un système qui a été décrit il y a au moins, ça doit faire 60 ans, par une chercheuse du Rockefeller extrêmement brillante qui s'appelait Barbara Lansfield, et d'ailleurs qui a laissé son nom à la classification sérologique des streptocoques, streptocoque du groupe A, c'est le groupe A de Lansfield, parce que c'est défini comme le sérotype A de la protéine M. Et donc cette protéine M, c'est une protéine qui est fixée, comme je vous l'ai montré, par un système sortase dépendant LPX-TGX, sauf que ce n'est plus une protéine unique, c'est deux protéines, c'est ce qu'on appelle des coil-coil, c'est-à-dire des protéines. Tous les sept acides aminés, il y a un acide aminé hydrophobe, ce qui fait qu'elles se mettent à deux en paires et elles font une espèce d'hélice qui vient se stabiliser tous les sept acides aminés parce que ces deux acides aminés hydrophobes se retrouvent. Et on a donc une structure de surface qui correspond en gros à ce que vous voyez ici. Je suis désolé, bon, si ça marche. Sur la surface du streptocoque. Alors, quand les gens qui travaillent là-dessus ont commencé à travailler, ils se sont aperçus c'est qu'il y avait bien entendu ces boîtes de liaison aux fibrinogènes, FG, ou à la fibronectine, FN. Jusque-là, tout va bien, c'est vraiment le système adhésion dans toute sa splendeur. Et si on élimine ces boîtes, on perd une partie de l'efficacité d'adhésion du streptocoque. Par contre, ce qu'ils ont vu aussi, c'est qu'il existait des zones sur cette protéine qui étaient capables de fixer les immunoglobulines, les IgG, par le fragment du côté FC des immunoglobulines, et des zones qui étaient capables de fixer un élément qu'on appelle le facteur H, qui est en fait un élément qui est un inactivateur de complément. Vous savez que le complément, c'est une cascade qui marche par clivage, en particulier au niveau d'éléments qu'on appelle le C3. Il y a une C3 convertase, qui est une protéase qui le clive, et il y a des mécanismes de régulation dans le sérum, en particulier ce facteur H, qui inhibe cette C3 convertase et qui font que la cascade du complément ne se met plus en place. Or, vous savez que le complément est un élément essentiel pour la destruction des bactéries, pas trop pour les grammes plus qui sont relativement résistants du fait de leur mur bactérien très épais, mais si ça ne les tue pas, au moins ça fait ce qu'on appelle l'opsonisation, c'est-à-dire ça les recouvre et ça leur permet d'être capturés par les cellules phagocytaires, en particulier par les polynucléaires, qui ont un récepteur pour le complément. Donc on retrouve en lisant ce système une espèce de dualité, à savoir ce que je disais, d'un côté la capacité d'adhérence fibronectine, fibrinogène, et d'un autre côté possiblement la capacité de résister à cette opsonisation en liant le facteur H qui inhibe le complément ou en liant des immunoglobulines, c'est-à-dire qu'en fait il inverse le système, au lieu que l'immunoglobuline vienne se fixer par son domaine spécifique à la surface du micro-organisme et par son récepteur FC puisse aller activer les polynucléaires ou les macrophages, elle les inverse et elle vient fixer l'élément FC, ce qui fait qu'elle désactive la possibilité des immunoglobulines d'agir en tant que système d'opsonisation. Et donc on peut lire encore une fois dans la structure de surface de ces streptocoques cette capacité anti-phagocytaire, puisqu'on a tout d'abord une capsule qui est très riche en acide hyaluronique. Je vous ai parlé du rôle de la capsule comme agent antiphagocytaire du fait de la charge négative. On a la liaison du facteur H à la protéine M, ce coil-coil que je vous ai décrit, et on a la liaison d'anticorps IgG ou IgA sur ce récepteur en rouge ici à la surface qui permet en fait d'inverser et d'inactiver le rôle potentiel d'opsonisation. Ce qui fait qu'en fait, la cellule phagocytaire comme le polynucléaire qui s'approche de ce microbe voit la capsule, ne voit pas de complément activé à la surface du microbe, ne voit pas d'immunoglobuline spécifique dans la bonne orientation et se retrouve donc incompétente à la phagocytose. Donc, vous voyez, la microbe vraiment rejoint cette dualité, à savoir, par la protéine M et d'autres, cette capacité d'adhérer aux matrices et en même temps de se débarrasser des cellules phagocytaires. Enfin, je voudrais vous montrer quand même deux jolies choses qui sont des développements, je dirais, nouveaux dans ce rôle, je dirais presque désespéré, des streptocoques à essayer d'éviter la phagocytose, en particulier par les polynucléaires neutrophiles. Je vais sélectionner au milieu de ça deux systèmes qui sont une protéase ou une série de protéases qu'on appelle SPICEP ou SCPAEC. Je vais revenir tout de suite sur cette fonction qui est très particulière et intéressante, et sur une vieille histoire qui traîne, entre guillemets, dans les livres de microbiologie, qui est que tous les grands pathogènes à gramme positif, les streptocoques, les staphylocoques, les pneumocoques, ont des DNases. Et jusqu'à présent, personne n'avait d'idée vraiment précise sur pourquoi ces micro-organismes dégradaient l'ADN. Et donc, je vais vous montrer deux choses qui ont un rapport avec l'antagonisme de ce microbe vis-à-vis de la phagocytose par les polynucléaires neutrophiles. Alors, le premier, c'est une découverte en fait, qui a été générée par ces fameux... Je suis désolé, je n'aime pas trop généralement montrer des photos de clinique, ce n'est pas très appétissant, mais c'est quand même une réalité. C'est cette maladie assez épouvantable qu'on appelle la fasciite nécrosante. C'est en fait ce qu'on appelle classiquement en médecine une cellulite, c'est-à-dire une inflammation infectieuse aiguë du tissu sous-cutané, c'est-à-dire essentiellement de la graisse sous-cutanée qui est entre la couche cutanée et le muscle. Et certaines de ces cellulites peuvent prendre, en présence de certaines souches de streptocoque A, une extension absolument phénoménale et surtout extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'en quelques heures, le front de migration de ces micro-organismes, vous voyez la rougeur là, et puis c'est ces grosses vésicules qui se forment, va disséquer progressivement la peau finalement de la surface musculaire et va causer bien entendu des dégâts importants parce que c'est d'abord un sepsis grave, ça représente des quantités de microbes absolument phénoménales à l'intérieur de l'organisme. Et puis en même temps, in situ, ça représente bien entendu avec l'œdème, des lésions, des compressions vasculaires et ainsi de suite. Donc c'est une maladie assez dramatique qui nécessite des antibiotiques très rapides et souvent malheureusement une intervention chirurgicale de manière à mettre tout ça à plat et le pronostic n'est pas très bon. En fait, un chercheur qui s'appelle Emmanuel Hansky en Israël il y a quelques années maintenant, bon 2006 mais le travail initial remonte un tout petit peu plus loin, a montré quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire que Streptococcus pyogenes fabrique une enzyme ou plusieurs enzymes, en réalité, ce sont les produits des gènes SCPA ou SCPC, qui sont capables de dégrader ce qu'on appelle l'interleukine 8. L'interleukine 8, c'est une chimiokine. Alors les chimiokines, en deux mots, ce sont des cytokines, en fait, ce sont des molécules qui sont produites par cellules du système immunitaire, en particulier les macrophages, produites éventuellement aussi par les cellules épithéliales ou endothéliales ou autres. Et ces cytokines, en fait, ou chimiokines, quand elles sont produites par une cellule, forment un gradient. C'est-à-dire, plus on est près de la cellule, plus la densité de cette chimiokine est importante. Et puis, au fur et à mesure qu'on recule, et c'est ce qui est un peu dessiné ici, on voit le gradient diminuer en densité. Et en fait, les cellules inflammatoires, comme les polynucléaires, ont un récepteur à l'IL-8 à leur surface, et elles sont capables de... Je suis vraiment désolé, mais... Voilà, ont un récepteur à leur surface qui va sentir ce gradient, qui va les activer et leur permettre de migrer vers là où est la source de cette chimiokine, de l'IL-8 en particulier, parce que là où est la source de cette chimiokine est en fait le foyer infectieux. Et donc ce que fait cette enzyme ici de Streptococcus pyogenes, c'est en fait de cliver, de détruire l'IL-8, de détruire ce gradient, et finalement de rendre le polynucléaire neutrophile aveugle à l'existence d'un foyer infectieux. C'est-à-dire qu'en fait, les polynucléaires neutrophiles ne sont plus recrutés, ils ne sont plus capables de sortir de la circulation des vaisseaux pour aller se localiser là où est le micro-organisme pathogène, grâce à cette, finalement, guerre électronique, à cette rupture de signaux. Et lorsqu'on prend, sur un modèle expérimental chez la souris, soit une souche sauvage, c'est ce qu'on appelle WT, là, ou wild type, on voit que le tissu, en fait, c'est ce que montrent les flèches grises, est bourré de bactéries, mais curieusement, sans aucune réaction inflammatoire. C'est-à-dire que les polynucléaires ne sont pas là pour s'en occuper, les phagocyter et les détruire. Par contre, lorsqu'on prend un mutant de Streptococcus pyogenes qui a été détruit dans les deux gènes qui codent pour les deux protéases qui clivent ces chimiokines, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de bactéries dans le tissu et des polynucléaires neutrophiles arrivent massivement puisque la signalisation maintenant n'est plus perturbée par la présence de cette enzyme. Donc vous voyez des systèmes qui sont quand même extrêmement sophistiqués pour que les micro-organismes puissent se débarrasser finalement des cellules les plus violentes dans la lutte antimicrobienne. Puis le deuxième aspect, et j'en viens au problème de la point d'interrogation sur l'ADNase, c'est ce que je trouve une des plus jolies découvertes ces dernières années qui renouvelle un petit peu notre vision du mode d'action des polynucléaires neutrophiles. Vous savez qu'on voit généralement le processus de fonction des polynucléaires neutrophiles par rapport aux microbes pathogènes comme une fonction de phagocytose, c'est-à-dire qu'ils les prennent, ils les internalisent et ils les tuent en injectant dans la vacuole de phagocytose des peptides antimicrobiens. On a aussi des facteurs, des radicaux superoxydes. Enfin, ça, c'est la vision classique qui reste exacte. Mais ce qu'a montré ces dernières années Arturo Zichlinski, qui est d'ailleurs un de mes anciens chercheurs postdoctoraux à l'Institut Pasteur, c'est que les polynucléaires neutrophiles, lorsqu'ils sont en population recrutée au niveau d'un foyer infectieux, un certain pourcentage d'entre eux, sous l'effet d'une signalisation qui est d'ailleurs en rapport avec la production de radicaux superoxydes, vont mourir d'une façon très particulière qui ne correspond ni à une nécrose ni à une apoptose et qu'on appelle maintenant net-ose, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le noyau du polynucléaire s'élargit considérablement, finit par prendre quasiment toute la taille de la cellule, et d'un seul coup, une ouverture se forme et la cellule va libérer son ADN qui va s'organiser dans une espèce de réseau. Alors, le terme est un peu un jeu de mots parce qu'ils ont appelé ça neutrophil extracellular traps, donc c'est des pièges extracellulaires des neutrophiles, et en anglais ça fait net qui veut dire filet en réalité. Vous voyez que ça fait véritablement un filet, et dans ce filet en réalité viennent se piéger les micro-organismes. Vous voyez ici Shigella dont je vous ai déjà parlé au début, Candida albicans, c'est la même chose pour les streptocoques, les staphylocoques, et en fait ces nets qui correspondent sur le plan matriciel à de l'ADN servent en fait de, comment dire, dessus sont fixées des protéines antimicrobiennes, c'est-à-dire des peptides antimicrobiens, des histones. Les histones qui forment la chromatine sont en fait aussi des protéines cationiques qui ont une puissante fonction extramicrobienne. Donc en fait, les polynucléaires sont capables de tuer les bactéries, et ça représente dans certaines situations à peu près 50% de leur capacité bactéricide avant même de les avoir phagocytées. Simplement en les piégeant dans ces réseaux et en les exposant à ces peptides antimicrobiens dont je vous ai parlé. Alors là vient prendre tout de suite, bien entendu, la notion de DNase, puisque probablement cette DNase sont des systèmes enzymatiques qui sont capables d'hydrolyser l'ADN de ces nets et finalement de libérer ces bactéries et d'éviter qu'elles ne soient tuées. Alors on voit ici, ce n'est pas chez Streptococcus pyogenes, mais chez Streptococcus pneumoniae où le travail a été fait, qui montre en fait que les nets n'apparaissent pas lorsqu'on est dans une souche sauvage. Par contre, ils restent constitués, ils apparaissent et ils restent constitués lorsqu'ils sont exposés à une souche qui a été mutagénisée pour la DNase. Et lorsqu'on compare dans un même modèle infectieux, dans une infection pulmonaire avec ce pneumocoque, ce qu'on appelle l'index de compétitivité, c'est-à-dire qu'on infecte l'animal avec deux souches, la souche sauvage et le mutant en question. On calcule ensuite le ratio de mutants par rapport au ratio de souches sauvages dans le tissu infecté, après un certain temps qui correspond au temps d'évolution de l'infection. Vous voyez qu'ici, le mutant est à environ 5 à 10% de l'effectif total, alors qu'on avait mis des quantités égales initialement, ce qui veut dire qu'il est incapable de se développer correctement dans les tissus, du fait de sa susceptibilité à la capture par les polynucléaires, contrairement à la souche sauvage qui est capable de se débarrasser de ce système puisque avec sa DNase, elle est capable d'hydrolyser l'ADN. Donc vous voyez que le champ des polynucléaires et de la fonction bactéricide des polynucléaires se modifie considérablement à l'heure actuelle, et ce type de travaux vraiment permet de faire du sens finalement d'enzymes, d'éléments qu'on considérait comme être des éléments de pathogénicité, mais des micro-organismes, mais sans savoir véritablement quelle était leur fonction. Alors, dernier point, et puis je vous laisserai tranquille avec ça. J'aurais peut-être dû commencer par l'invasion, mais ce n'est pas très grave, je vais essayer d'aller relativement rapidement. L'idée était de vous montrer quand même comment les microbes, finalement, pathogènes, abordent leur route. Je vais essayer de vous présenter deux modèles, deux paradigmes qui vous expliquent comment les bactéries peuvent aller une étape plus loin, qui est l'infra-usage de deux bactéries qui s'appellent Yersinia et Listeria, et l'autre Salmonella Shigella. Donc en fait, je vous ai déjà parlé dans une première diapositive de ces deux processus d'internalisation, le zipper et le trigger. Pour résumer la situation, au-delà de l'adhérence, certaines bactéries peuvent aller plus loin et rentrer dans les cellules parce que le mécanisme d'adhésion a un tel potentiel de remaniement de la surface cellulaire qui va permettre à la bactérie d'être internalisée par ce processus de fermeture éclair, c'est-à-dire qu'on va avoir des récepteurs cellulaires de haute affinité à la surface de la bactérie, et au niveau cellulaire, des récepteurs qui sont impliqués dans le remodelage du cytosquelette, et la correspondance de ces deux systèmes va permettre peu à peu de refermer ces petits boutons de pression et de fermer la fermeture éclair autour du micro-organisme. Donc ça, c'est le système, encore une fois, du zipper. Et puis des mécanismes comme ceux que met en place Salmonelle ou Shigel, qui consistent à injecter avec une seringue moléculaire des effecteurs qui vont, encore une fois, entraîner des remodelages massifs du cytosquelette. Vous voyez cette image au-dessus, qui correspond en fait à un peu à l'image que je vous ai montrée initialement, du corps bactérien qui est pris, piégé dans cette poche qui est en train de se former du fait de cette signalisation très très importante qui est mise en place. Alors, en deux mots, le processus du zipper, de la fermeture éclair, il se fait du fait, encore une fois, de la présence à la surface de ces micro-organismes de molécules très particulières qu'on appelle des invasines. Elles portent bien leur nom, bien entendu. Et ces invasines vont se lier à un récepteur dynamique de la surface cellulaire. Alors, ça va être soit éventuellement ce qu'on appelle une intégrine, qui sont des molécules qui sont importantes dans l'adhérence et dans la motilité des cellules sur leur support. Ça, c'est le cas de l'invasine de Yersinia, ou l'internaline de Listeria monocytogenes, qui va se lier à un autre type de récepteur, mais lui aussi un récepteur dynamique de la cellule qui s'appelle la eucadérine, qui est en fait une molécule qui permet aux cellules de se lier les unes aux autres et de stabiliser un épithélium. Donc ça, ce sont vraiment à l'heure actuelle, ça c'est le travail du groupe de Ralph Fitzberg aux États-Unis, ça c'est essentiellement le travail du groupe de Pascal Cossard à l'Institut Pasteur, ce sont ces deux modèles, si vous voulez, qui représentent vraiment le mieux, je pense, pour l'instant, ce processus de fermeture éclair. Et puis on a ce modèle de trigger, ici, de gâchette, qui correspond en fait à la capacité, une fois de plus, des bactéries d'injecter à l'intérieur de la cellule des molécules qui vont remanier là aussi le cytosquelette cellulaire de façon massive, c'est le cas de Salmonelle, c'est le cas de Shigella, et entraîner la formation de cette poche, mais sans la nécessité de ce processus donc de bouton pression ou de fermeture éclair que je vous ai mentionné. Donc tout ça est lié à la création d'une dynamique à la surface cellulaire, soit par engagement d'un récepteur intégrine ou cadérine, soit par injection de molécules qui remanient le cytosquelette, mais dans les deux cas, on a besoin d'un remaniement massif du cytosquelette d'actine. Si on bloque, par exemple, la dynamique de l'actine, sa polymérisation par des molécules comme la phalacidine, par exemple, ou la latronculine, on arrête complètement le processus d'invasion. La bactérie peut éventuellement se lier, dans le cas de l'invasine ou de l'internaline, mais est incapable de pénétrer à l'intérieur du micro-organisme. Donc tout ça est lié au fait que ces bactéries, soit directement dans le mécanisme de trigger en injectant des effecteurs, soit indirectement par l'intermédiaire des intégrines ou des cadérines, sont capables de jouer avec la dynamique du cytosquelette cellulaire et en particulier sont capables d'activer ce complexe ici qu'on appelle ARP2-3, qui est un complexe de 7 molécules qui induit ce qu'on appelle la nucléation de l'actine et qui va permettre à l'actine de former ces longs filaments que vous voyez mentionnés ici, dont la dynamique va être assurée par un événement de polymérisation ici au niveau du complexe ARP2-3 et dépolymérisation à l'extrémité. C'était un système qui est régulé en particulier par la liaison de l'ATP ou de l'ATP aux molécules individuelles d'actine. Donc la bactérie va vraiment, indirectement par ces molécules intégrines ou cadérines, ou directement par l'injection par l'appareil de sécrétion, s'intégrer dans ce système et vraiment va commencer à jouer avec la dynamique de ce système qui est régulée par des petites GTPases, qu'on appelle des GTPases de la famille Rho. Il y a un véritable cycle et certaines bactéries vont activer ce système, en particulier en utilisant des molécules qui sont du type qu'on appelle GEF. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails, tout ça est un système qui maintenant est extrêmement bien connu en termes de biologie cellulaire, avec une cascade de petites GTPases, CDC42, RAC, RHO, l'une étant activée et activant l'autre en aval. Tout ça est régulé en aval par des molécules qui vont aller jusqu'à l'activation de ce complexe ARP2-3, donc en amont de ce complexe ARP2-3 qui crée la nucléation de l'actine. On a un système complexe de régulation que les bactéries ont appris finalement à moduler dans la mesure où elles sont capables de se fixer à des molécules qui vont jouer sur ces systèmes ou carrément injecter des molécules qui vont perturber la fonction de ce système et donner lieu à la formation de ces structures de surface qui peuvent être des phyllopodes, des lamellipodes ou des fibres de stress. Et en fait, ces effecteurs bactériens nous ont vraiment, pour une partie, informés sur l'existence de cette richesse d'éléments de régulation. En particulier, le complexe ARP2-3, qui est à la racine de la nucléation des filaments d'actine, a été découvert grâce à la connaissance de la protéine ACTA chez Listeria monocytogenes. Alors, l'invasine, je vous l'ai déjà dit, chez Yersinia pseudotuberculosis, se fixe sur les intégrines, qui sont vraiment les molécules d'adhérence des cellules à leur matrice. Et l'engagement de l'intégrine, qui est montré là-haut, vous le voyez tout de suite, par un certain nombre de molécules intermédiaires, va directement impacter sur la dynamique du réseau d'actine. Et c'est cette dynamique-là qui va permettre d'internaliser Yersinia par l'intermédiaire de l'invasine. Exactement le phénomène cellulaire similaire va s'effectuer avec Listeria monocytogenes. L'internaline se lie au domaine terminal de la cadérine, ici, qui est exprimée à la surface des cellules épithéliales. Et cette liaison, en fait, va, là aussi, activer le cytosquelette cellulaire et permettre, par l'intermédiaire d'un certain nombre de molécules de signalisation, de peu à peu refermer la membrane cellulaire par cette activation de réseau d'actine autour du corps bactérien et d'internaliser le micro-organisme. Donc ce sont des systèmes qui ont été vraiment, encore une fois, très, très informatifs. Alors, je voudrais terminer en deux mots sur le modèle Shigella, qui est un petit peu représentatif de tout ça. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que Shigella rentrait dans les cellules épithéliales, c'est sa caractéristique. Je terminerai sur quelques images de façon à vous montrer un petit peu comment évolue, non pas la science, mais notre science, si je puis dire. Donc vous avez ici, dans les étapes très très précoces, vous voyez en microscopie à balayage, Shigella est en train de se faire accrocher en fait par des éléments de la surface de la structure de la cellule à laquelle elle est opposée. Et vous voyez sur ce petit film ici, ce clip vidéo, on va exposer, vous voyez déjà les superstructures de la cellule. Vous allez voir arriver des bactéries qu'on est en train d'injecter là. Et vous allez voir qu'une des bactéries va être piégée par une de ces superstructures qui va se rétracter, qui va amener la bactérie à la surface de la cellule. Et là, ce phénomène d'explosion du cytosquelette va se mettre en place. Et vous voyez peu à peu la cellule qui s'élargit et cette poche qui se forme et qui va se refermer sur le micro-organisme. Donc vous avez là quasiment toutes les étapes successives de l'interaction entre le micro-organisme et la cellule. Alors tout ça est lié à un îlot de pathogénicité, je ne rentre pas dans les détails, qui code pour cet appareil de sécrétion de type 3 dont je vous ai déjà parlé antérieurement, qui permet en fait à la bactérie d'injecter dans la cellule des éléments qui vont lui permettre de faire passer ses effecteurs à travers la membrane de la cellule eucaryote et donner lieu à ces réorganisations massives du cytosquelette. C'est donc l'aspect en miroir, c'est l'aspect véritablement de trigger dont je vous ai parlé. Alors, simplement pour vous montrer la façon dont les choses se mettent en place, vous avez ici l'appareil de sécrétion de type 3 qui vient s'insérer dans la membrane et qui va donner lieu à l'injection de ces molécules effectrices. Tout ça va causer la nucléation de l'actine par l'activation du facteur ARP2-3 et vous verrez là-haut apparaître dans cette fenêtre. Voilà, vous avez la bactérie qui rentre dans la cellule et là, en vert, vous avez l'actine fluorescente puisque la cellule est transfectée par de l'actine GFP qui vous matérialise finalement cette réorganisation massive du cytosquelette de la cellule qui donne lieu à l'internalisation du micro-organisme. Donc tout ça se met en équation moléculaire, si je puis dire, et ce sur quoi je voulais juste insister pour terminer, c'est encore une fois ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on est vraiment dans un domaine où l'imagerie a permis de progresser considérablement. Ici, ce que vous voyez, c'est un système qui a été développé par un chercheur postdoctoral du labo qui s'appelle Jost Edinga, où il a réussi à faire rentrer dans les bactéries un composant qui s'appelle Flash, qui est fluorescent, c'est en fait une tétracystéine qu'on branche sur une molécule qui va être injectée au moment du phénomène d'entrée, à l'intérieur de la cellule eucaryote. Et donc on peut suivre, puisque cette molécule maintenant fluoresce, mais que le branchement de ces quatre cystéines n'empêche pas sa sécrétion, on peut suivre, vous la voyez arriver ici, et se vider de son contenu à l'intérieur de la cellule. Par contre, la bactérie qui n'est pas en contact ne vide pas son contenu. Vous voyez ici, elle disparaît parce que le contenu est vidé dans la cellule. Donc ça, c'est vraiment l'étape initiale. Et vous voyez ici, par exemple, suite à l'activation de ces protéines petit g dont je vous ai parlé, WASP et le complexe ARP2-3, une augmentation considérable de la signalisation par un proto-oncogène qui s'appelle SARC. Et je vous montre simplement là la façon dont on peut voir ce genre de choses. Vous voyez ici que la bactérie commence à interagir, commence à induire la mutation d'actine, et puis tout doucement, vous voyez arriver SARC qui est recruté, qui s'active, puisque ce qu'on voit ici, c'est la forme activée. Et on le voit maintenant prendre le relais dans la signalisation et entraîner ce remaniement massif du cytosquelette qui correspond à l'internalisation du micro-organisme dans la cellule. Donc vous voyez, le système dans tous ces processus, c'est on voit bien souvent d'abord et ensuite on essaye de mettre ça en équation moléculaire pour mieux comprendre comment ça se passe. Et Schigel, en fait, à tout moment, régule ce processus d'interaction qui lui permet de remanier le cytosquelette et de rentrer dans la cellule. Alors, dernière étape, la bactérie lise sa vacuole de phagocytose et elle exprime à sa surface, maintenant qu'elle est dans le cytoplasme cellulaire, directement en contact avec les composants du cytoplasme, une protéine qui s'appelle ICSA, qui va lier un composant d'activation du complexe ARP2-3 qui s'appelle NWASP. Cette liaison du complexe ARP2-3 va entraîner la nucléation de l'actine et la bactérie, grâce à cette protéine de surface, va pouvoir bouger dans le cytoplasme cellulaire et en fait se mobiliser. Je crois qu'il faut que je revienne au petit film pour mieux vous l'expliquer. Voilà, vous avez ici de l'actine fluorescente. Vous voyez la bactérie qui se couvre d'actine et qui va commencer à bouger rapidement dans le compartiment cellulaire et à pousser ses protrusions qui vont lui permettre finalement d'aller passer dans la cellule adjacente par l'intermédiaire de cette protrusion, de liser de nouveau sa membrane de sa vacuole et d'accéder dans la cellule adjacente et ainsi de suite. Et de ce fait, sur le petit film à côté qui correspond à des bactéries fluorescentes qui sont dans une monocouche de cellules épithéliales, vous voyez ces bactéries qui bougent à l'intérieur des cellules et qui vont peu à peu coloniser l'ensemble des cellules en passant d'une cellule à l'autre. En quelques heures, sur cet îlot qui fait plusieurs milliers de cellules, l'ensemble de l'îlot va être colonisé. Alors, je termine par un petit film, parce que je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce que donnent finalement ces méthodes d'imagerie. C'est une cellule épithéliale infectée par Shigella. Donc la Shigella est verte, fluorescente. Et ce que vous voyez en fait émerger de la surface cellulaire à plusieurs endroits, ce sont vraiment ces protrusions. Vous voyez en haut, par exemple, qui sont... on va remettre un petit coup. Vous me dites quand vous en avez assez. Voilà. Je ne veux pas repartir. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, en haut, si vous fixez votre attention, vous allez voir à un moment une bactérie qui survient et qui pousse une protrusion, voilà, une autre, c'est un vrai feu d'artifice, et en fait, ces bactéries, bien entendu, ces protrusions vont réussir, dans un certain nombre de cas, à planter la bactérie dans la cellule adjacente, et la cellule adjacente est maintenant infectée, et ainsi de suite, c'est comme ça que se développe le processus. Donc, je vous ai montré un peu tous ces mécanismes, je sais que c'est parfois un petit peu compliqué, surtout quand on n'est pas familier avec tous ces systèmes. J'ai essayé de vous les clarifier un peu en vous les illustrant, surtout avec quelques images un peu frappantes et quelques films. Je crois que l'idée qu'il faut garder de tout ça, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous faire, c'est les étapes principales, c'est les différences entre les différents systèmes microbiens, et puis c'est cette idée permanente en fait, que tout ça s'est construit en fait, par coévolution entre le microbe et l'hôte, et que ceci n'est que le reflet, finalement, de milliers, voire de millions d'années d'interaction avec des autres mammifères pour arriver à des outils, finalement, d'infection qui sont quand même assez spectaculaires et passablement efficaces, puisque ça, c'est ce qui permet, finalement, à ces micro-organismes d'envahir un intestin et de causer, par exemple, une dysenterie bacillaire. Donc, je vais arrêter là. J'espère vous avoir pas trop assommé avec toutes ces données, pas toujours nécessairement, encore une fois, familières. Le prochain cours sera en janvier, je ne sais plus très bien la date, ce sera sur je vais essayer de faire avec vous, à la limite, si vous pouvez y réfléchir un petit peu, ce serait bien qu'on établisse un peu un échange, parce que c'est un sujet qui est relativement chaud sur les maladies émergentes. C'est essayer de comprendre comment les microbes peuvent passer la barrière d'espèce. C'est essayer de comprendre, par exemple, comment un virus de la grippe aviaire peut devenir un pathogène éventuellement chez l'homme. Heureusement, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Mais ce serait bien, éventuellement, en plus de vous donner finalement des informations, vous ayez pu éventuellement réfléchir et qu'on puisse faire un débat un petit peu ouvert. D'ailleurs, la deuxième partie du cours sera un séminaire par... un collègue de l'Institut Pasteur qui s'appelle Antoine Gessin, qui est un spécialiste des rétrovirus simiens et qui essaiera de nous expliquer comment on peut mettre en place à l'heure actuelle, et c'est ce qui fait en particulier en Afrique et en Amérique du Sud, une véritable veille à l'émergence, c'est-à-dire d'aller montrer chez l'homme, dans des écosystèmes particuliers, que des virus animaux sont capables de passer et d'essayer de comprendre finalement pourquoi dans certaines circonstances, malheureusement, les choses vont mal tourner et ce virus animal va... donner lieu à une vraie maladie chez l'homme, c'est bien sûr le problème du sida, et pourquoi dans d'autres cas, finalement, ces passages existent, mais ne donnent pas lieu, ça avorte et ne donne pas lieu véritablement à un processus infectieux. C'est plus pour illustrer le fait que, en particulier dans certaines zones, on est vraiment permanent exposé à des agents infectieux qui ne sont pas nécessairement des infections classiques, telles qu'on les connaît ou telles que je vous ai décrites là, et que malheureusement, ces conditions sont un peu les bases de la possibilité à un moment ou un autre de saut d'espèces et d'apparition de nouvelles maladies. Donc ce sera un peu ça le thème. On parlera un peu plus de virus d'ailleurs pour une fois. Mais si vous voulez y réfléchir un petit peu à l'avance de façon à ce qu'on ait peut-être plus un échange en réalité qu'une espèce de cours un peu trop doctoral à mon avis, ce sera une bonne chose. Voilà, à moi, vous avez peut-être des questions, sinon je ne veux pas trop vous ennuyer. Si vous n'avez pas de questions, apparemment tout le monde est fatigué, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2009 et j'espère vous voir en début d'année 2009 en pleine forme. S'il y a des questions, allez-y, hein, n'hésitez pas.
Si on est encore là, parce que c'est effrayant quand même.
Non, vous serez encore là, c'est le froid est un très bon anti-infectieux.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.